It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Old pirates, yes, they robbed I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs,
c'est une émission un peu particulière que nous vous proposons aujourd'hui, puisque nous sommes installés à la Philharmonie de Paris, qui accueille jusqu'au 13 août l'exposition Jamaïca, Jamaïca, consacré à l'histoire culturelle et politique de cette île des Caraïbes, la Jamaïque, dont nous allons parler avec le commissaire de l'exposition, Sébastien Carayol. Merci de nous accueillir.
Bienvenue.
Alors d'abord, quelle est l'intention de cette exposition ?
Alors, l'intention de cette exposition, pour moi, le grand point de départ, c'était de montrer la richesse et la densité des musiques jamaïcaines et comment elles se sont créées, dans quel contexte économique, politique et social. Et également de montrer que la musique jamaïcaine ne se résume pas à Bob Marley, qui est la grande icône évidemment que connaît le grand public, et montrer aussi toutes les choses que ces musiques ont inventées pour les musiques urbaines contemporaines comme le rap, l'électro, ce genre de choses. Donc voilà, essayez de montrer tout ça en une seule exposition.
Donc cette exposition n'est pas à la gloire de Bob Marley ?
Elle est en partie à la gloire de Bob Marley, puisque sans lui, ni vous ni moi serions ici aujourd'hui en train de parler d'une exposition sur les musiques jamaïcaines. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que Bob Marley est pris dans un tout. Il fait partie de quelque chose qui va bien au-delà de cette icône.
Où sommes-nous là précisément ?
Alors là, nous sommes dans la première salle de l'exposition, qui est consacrée vraiment aux musiques jamaïcaines un petit peu autochtones, avant l'arrivée du ska et du reggae, qui sont les premiers genres musicaux que le monde va connaître vraiment.
Donc est-ce qu'on peut comprendre l'histoire musicale jamaïcaine sans connaître l'histoire politique et sociale de cette île ?
L'histoire politique et sociale est complètement indissociable de la création et de la fabrication de la musique jamaïcaine. Donc c'est pour ça que dans cette exposition, on a mis un fort accent sur certaines personnalités, certains événements historiques et culturels qui ont vraiment contribué à amener des petits éléments qu'on va ensuite retrouver dans le reggae, des noms de personnages qu'on retrouve souvent cités dans le reggae, ou les musiques jamaïcaines au sens large, hein, du manto, reggae, au ska, voilà, je ne veux pas noyer les auditeurs dans des références, mais voilà, les musiques jamaïcaines, c'est une quinzaine de genres et sous-genres assez particuliers, avec un son différent en général.
Nous sommes devant divers documents, objets, instruments. Quel type de musique existait ancestralement en Jamaïque ?
Alors, les musiques ancestrales de la Jamaïque sont vraiment liées à des pratiques religieuses qui naissent en Jamaïque, en fait, avec le mélange des rituels amenés d'Afrique par les esclaves qui sont déportés en masse vers les Caraïbes et les religions des colons déjà anglo-saxons. Donc le baptisme notamment est très présent sur l'île par les colons. Et en se mélangeant, ces diverses sources religieuses créent des religions syncrétiques qui sont propres à la Jamaïque et qui elles-mêmes génèrent leur propre danse et leur propre musique. Donc notamment le revival, le kumina, le bourou, voilà des choses très très anciennes, dont certaines mélodies perdurent aujourd'hui jusque dans les musiques jamaïcaines les plus contemporaines.
Alors je vous propose que nous approchions d'un document vidéo. On découvre un certain
Lord Flea.
Lord Flea, qui est ce monsieur ?
Alors Lord Flea, c'est vraiment un des musiciens cultes d'un genre musical jamaïcain qui existe avant le reggae, qui s'appelle le manto, qui est en fait une sorte de calypso à la jamaïcaine, mais les premiers musiciens de manto, jamaïcains, comme la calypso a eu énormément de succès aux États-Unis, dès qu'ils commencent à jouer leur propre style à eux, ils appellent ça du Jamaican calypso, parce que, évidemment, c'est jamais inintéressant d'essayer de se greffer sur quelque chose qui a déjà eu son propre succès. Donc on a ici des collections de disques vinyles, notamment, où on voit beaucoup le mot calypso présent, Calypso Date, Swinging Calypsos, qui est un des albums cultes de Lord Flea, justement. Et voilà, qui essaie de se greffer sur ce mouvement, ce succès du calypso. Et cet extrait vidéo dont on parlait, c'est un tout petit moment dans un film de 1957 qui s'appelle Bop Girl Goes Calypso, et c'est l'histoire d'une jeune américaine qui écoute du bebop et qui se retrouve en Jamaïque et découvre le calypso, donc le manto jamaïcain.
Écoutons un extrait de cet archive de 1957. Ces quelques notes de Lord Flea nous ont permis d'avancer dans cette exposition Jamaïca, Jamaïca. Où est-on à présent, Sébastien Carayol ?
Alors nous nous trouvons dans un second espace qui est vraiment dédié à l'apparition du ska, qui est un genre musical qui apparaît vraiment en Jamaïque à la fin des années 50, sous l'impulsion notamment d'un groupe qui va devenir culte qui s'appelle les Skatellites. Et en fait, les Jamaïcains à cette époque-là écoutent exclusivement quasiment de la musique américaine, parce que le manto, il faut savoir que c'était des disques qui étaient destinés à être vendus aux touristes des hôtels. Donc les Jamaïcains en écoutaient finalement assez peu. Ils en ont écouté sur le tard surtout. Et donc le ska, c'est vraiment quand les Jamaïcains se prennent de passion pour un rythme qui vient des États-Unis, qui est le contretemps, notamment porté par le pianiste Roscoe Gordon, qui écrit des morceaux avec cette espèce de contretemps qu'on retrouve dans le shuffle et le bebop américain de ces époques-là. Et donc adopte complètement ce style-là, et les Skatellites vont complètement révolutionner l'écriture de la musique jamaïcaine en créant le ska. Donc il y a plusieurs légendes hein, sur le nom, pourquoi ça s'appelle le ska. Évidemment, chaque guitariste qui a joué sur un morceau de ska dit que c'est lui qui l'a inventé. Et puis parce qu'on commence à avoir ce rythme du reggae qui fait ska, ska, ska. Voilà, ça c'est une des légendes qui court sur ce style musical-là. Et ce qui est très intéressant aussi avec le ska, moi en tant qu'ancien journaliste, ce qui m'intéresse c'est aussi de raconter des histoires un petit peu universelles, la petite histoire dans la grande histoire. Et donc ces musiciens des Skatellites viennent tous d'un orphelinat qui s'appelle la Alpha Boys School, et qui est en fait une école tenue par les Sœurs de la Miséricorde, donc des bonnes sœurs, un petit peu comme dans les films de Funès finalement. Et ces bonnes sœurs leur apprennent à jouer de la musique militaire, des marches militaires, et comme ça ils acquièrent une excellence musicale de pratique qui leur permet ensuite d'inventer le ska et de jouer du jazz.
Est-ce qu'on peut dire que finalement vous aviez l'air de dire que le ska est l'ancêtre du reggae? Est-ce qu'on peut le présenter ainsi?
Oui, c'est la première fois qu'apparaît cette signature musicale qui va ensuite se poursuivre avec le rocksteady, puis le reggae, puis le rub-a-dub, enfin voilà, tous les styles un petit peu qui arrivent ensuite en Jamaïque ont cette signature qui est ce contre-temps, le offbeat. Donc vraiment le ska c'est l'ancêtre du reggae, de toutes les musiques jamaïcaines à venir.
Alors chronologiquement on a donc le ska et après c'est le rocksteady.
Le rocksteady, voilà.
Alors je crois qu'on en voit...
On en voit une toute petite partie, on voit un extrait de documentaire.
Ouais.
On voit justement Tommy McCook, ancien élève de la Alpha Boys School, expliquer en musique la différence entre le ska et le rocksteady. C'est-à-dire le ska c'est une musique très très rapide, très optimiste, qui accompagne un petit peu l'indépendance de la Jamaïque en 1962. Et cet optimisme dure quelques années, puis en 1966, on s'aperçoit que finalement le libéralisme à tout craint dans lequel se lance le pays fonctionne pas aussi bien que ça. Et puis le pays se paupérise très très vite et d'énormes ghettos apparaissent en Jamaïque. Et tous ces gamins de l'Alpha Boys School viennent tous des ghettos. Donc c'est aussi l'apparition d'une première forme de musique vraiment de la rue. Et le rocksteady, en fait, c'est comme du ska avec un tempo très ralenti, très menaçant, et qui fait apparaître pour la première fois un personnage mythologique dans la culture de la rue jamaïcaine, c'est le rude boy, c'est-à-dire le voyou.
Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que la musique jamaïcaine prend des accents politiques et rebelles ?
Voilà, c'est un petit peu ça. Il y avait un petit peu une présence dans le ska quand même de thèmes politiques et notamment de libération de la conscience noire. Mais le ska, c'est essentiellement des instrumentaux. Donc on va avoir un titre de chanson qui parle de quelque chose de politique, mais on commence à avoir des premiers éléments effectivement de politique et surtout sur un tempo plus lent et avec une fascination pour les Jamaïcains, pour les chanteurs de soul aussi américaines comme Sam Cooke qui crée vraiment une espèce de culte en Jamaïque et qui fait un peu apparaître vraiment les chanteurs en tant qu'artistes dans la musique jamaïcaine. Et ça c'est une période très courte qui dure de 1966 à 69 mais qui est encore la base de vraiment énormément de musique en Jamaïque, qui fascine les skinheads en Angleterre, qui écoutent toujours aujourd'hui du ska, du rocksteady, pardon, de 66 à 69. C'est un mouvement qui est très court dans le temps, mais qui est très 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 suivi toujours aujourd'hui. Voilà.
Nous sommes à la Philharmonie de Paris cette semaine dans l'épopée en compagnie de Sébastien Carayol, commissaire de l'exposition Jamaïca, Jamaïca, qui se tient jusqu'au 13 août. Nous sommes devant une énorme chose, un sound system imposant. En quoi ces outils étaient importants dans l'histoire jamaïcaine, Sébastien Carayol ?
Alors, le sound system, pour moi, c'est vraiment l'instrument de musique de la musique jamaïcaine, puisque c'est grâce au sound system qu'un peu tout s'invente. Puisque un sound system, ça devient un enjeu économique assez important à partir du début des années 60. C'est-à-dire, c'est avec le sound system qu'on diffuse les nouveaux morceaux, mais qu'il faut toujours avoir des nouveaux morceaux, des nouvelles façons, des nouveaux chanteurs. Et donc, ça crée une émulation qui fait que on va comme ça un petit peu inventer plein de pratiques musicales qui sont aujourd'hui reprises bien au-delà du reggae. Notamment dans toute la culture DJ mondialisée, reprend énormément d'inventions du sound system jamaïcain.
Alors ici on peut vraiment s'amuser puisque est installé tout un petit dispositif d'ailleurs ancestral, historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert cette petite boîte grise ?
Voilà, alors la petite boîte grise, l'idée c'était le son de système, c'est quelque chose qui se ressent, qui s'expérimente. Donc on voulait essayer de faire partager cette expérience là au public. Donc on a mis une effect box.
C'est-à-dire une
boîte d'effets, je sais qu'il n'y a pas d'anglicisme. Donc sur laquelle on peut, comme dans un vrai sound system, on peut couper les basses. Au début de ce morceau Jamaica Jamaica de Brigadier Jerry, qui a également donné le nom à cette exposition. On peut rajouter des sirènes. Comme dans un vrai sound system. Et remettre les basses. Voire laisser que les basses. Je remets les aigus, les médiums, et un petit coup de sirène.
Finalement, c'est assez rustique le matériel qu'utilisaient les Jamaïcains à l'époque.
Évidemment, à l'époque, c'était de cet ordre-là, très rustique et très artisanal. C'est aussi quelque chose qui est moteur. La fascination que j'ai pour le son de système jamaïcain, c'est tout est artisanal. C'est-à-dire on fait ses amplis, on fait ses haut-parleurs et on invente comme ça constamment. Ici, effectivement, on a fait quelque chose de très rudimentaire qui est accessible au grand public. Mais évidemment, ces boîtes d'effets évoluent, enfin, sont en constante évolution. Mais là, on a voulu faire quelque chose de très, très basique et très ludique, tout en étant simple à utiliser. Ouais.
Dirigeons-nous maintenant vers la partie proprement reggae, on va dire, de l'exposition avec Bob Marley en figure tutélaire. Un document vidéo m'a interpellé la première fois que je suis passé dans cette exposition. C'est le One Love Peace Concert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là de 1978 ?
Alors, le One Love Peace Concert, en 1976, Bob Marley est victime d'une tentative d'assassinat. Parce qu'il est, malgré ses dénégations, il est quand même très proche du parti progressiste, disons parti socialiste de l'époque, le PNP. Et c'est quelque chose qu'il a failli payer assez cher. Donc il part en exil pendant un an et demi à Londres. Et en 78, il fait son retour avec ce concert, le One Love Peace Concert, qui est organisé d'ailleurs, c'est assez intéressant, ce concert organisé par les deux parrains ennemis, parce que une des racines de la violence politique en Jamaïque, c'est que les deux partis arment leurs propres gangs, leurs propres milices, leurs propres factions. Et donc les deux parrains, adoubés par la gauche et la droite, décident de faire une trêve et d'organiser ce concert. Donc Bob Marley fait son retour en Jamaïque à l'occasion de ce concert et à la fin de son concert, à ce moment complètement historique et légendaire au cours duquel il fait monter les deux rivaux politiques, Edward Seaga et Michael Manley, sur scène pour faire en sorte qu'ils se serrent la main.
Est-ce que les dirigeants de l'époque avaient conscience que la musique pouvait être un enjeu politique ?
En Jamaïque, la musique est tellement présente et tellement importante qu'elle est un enjeu déjà économique dès ses débuts. Donc elle va se faire très rapidement instrumentaliser, ou du moins les politiciens vont tenter vraiment de l'instrumentaliser. Il faut se souvenir que le premier ministre, donc conservateur de cette époque, des années 70, Edward Seaga, a monté un studio dans les années 50-60. Il a étudié les cultes, l'équivalent du culte vaudou jamaïcain, donc il est très craint pour toutes ces raisons-là. Et Michael Manley, lui, son rival de gauche en 72, gagne une partie des élections parce qu'il embarque pour une tournée de concerts gratuits tous les meilleurs chanteurs de l'époque, enfin les meilleurs en tout cas ceux qui lui sont affiliés, notamment Bob Marley, Clancy Eccles, Max Romeo. Et donc ce tour s'appelle le Bandwagon Tour. Et je pense que c'est en très grande partie grâce à cette série de concerts gratuits des idoles de la rue jamaïcaine qui gagnent les élections de 72.
Je vous posais cette question parce que vous avez exhumé un 33 tours de Millie Small qui nous éclaire justement sur l'enjeu politique des musiques jamaïcaines qui est ici.
Alors Millie Small, c'est le premier hit international vraiment de la musique jamaïcaine en 1964. Le morceau s'appelle My Boy Lollipop. C'est une reprise en fait d'un morceau d'une chanteuse américaine, mais qui explose complètement en Angleterre, aux États-Unis. C'est le premier gros succès de Chris Blackwell, le patron du label Island, qui va signer Bob Marley et les Wailers et les faire exploser internationalement. Et ça illustre assez bien ce morceau et ce son-là un petit peu inoffensif de ska. On dit le ska, c'est la nouvelle danse, par exemple. Ben ça, c'est supporté aux États-Unis par Edward Seaga, le candidat de droite, qui veut vendre un peu une musique un peu plus inoffensive que celle que pratiquent les Rasta à côté, qui est très sociale, très militante, et défendue un petit peu par Michael Manley. Donc voilà, c'est toujours moi ce que j'adore, c'est que la musique jamaïcaine, ça devient souvent quelque chose qui crée des histoires et qui crée des espèces de légendes comme ça.
Écoutons ce disque de Millie Small inoffensif, intitulé « My Boy Lollipop ». My Boy Lollipop, Millie Small en 1964, l'un des documents finalement politiques de cette exposition, placé juste à côté d'un fusil mitrailleur M16 de Peter Tosh, Sébastien voilà. Carayol.
Changement d'ambiance assez radical entre Millie Small et Peter Tosh. Donc Peter Tosh, c'est, au départ, il fait partie d'un trio avec Bob Marley et Bunny Wailer qui s'appelle les Wailers. Puis au début des années 70, le groupe est signé sur le label Island. Et juste au moment où il va exploser internationalement, ils se séparent. C'est-à-dire les trois protagonistes suivent chacun des carrières séparées, surtout à cause du fait que Chris Blackwell veut vraiment pousser en avant Bob Marley, qui est un petit peu plus marketable, on va dire, au niveau international, puisqu'il est métis. Et donc ça plaît pas beaucoup à Peter Tosh et Bunny Wailer. Et Peter Tosh, de toute façon, est un rebelle dans l'âme, c'est-à-dire très radical, très dans la mouvance Black Power américaine. Et il accepte aucune compromission, mais en tout cas, en 1983, il achète cette guitare à un guitariste américain qui est en forme de fusil mitrailleur M16. Voilà, et pour moi, c'est un objet qui est un des highlights de l'exposition, parce que c'est pas tellement le fait que Peter Tosh l'ait touché, ça m'intéresse moyennement, c'est ce qu'elle dit sur sa personnalité. Et ça, pour moi, c'est quand un objet musical est important. C'est quand il raconte une histoire aussi.
Sébastien Carayol, il est impossible de tout décrire ou commenter en l'espace d'une émission. Donc je recommande à nos auditeurs de venir à la Philharmonie de Paris jusqu'au 13 août, d'autant qu'il y aura des concerts organisés prochainement.
Voilà, tout le week-end du 20 au 23 avril, une série de concerts avec Ina De Yard, qui est un projet acoustique très intéressant qui avait été développé il y a une dizaine d'années par un label français, qui avait voulu capturer la façon dont se fabrique la musique en Jamaïque, c'est-à-dire dans les yards, qui sont ces cours communautaires dans les habitats du ghetto, dans lesquels les musiciens jouent ce qu'ils ont sous la main, donc des guitares acoustiques, puis les chanteurs viennent, essaient des paroles, ça marche pas, si ça marche bien, on décide d'aller en studio, et ça se fait voilà, dans l'environnement naturel. Donc Ina De Yard avait brillamment réussi à capter cette ambiance-là, parce qu'on entend les oiseaux, les gens qui passent à côté, enfin vraiment, c'est un morceau de vie jamaïcaine. Ça avait donné lieu à une série de concerts et d'albums, et le projet avait été mis un petit peu en sommeil. Donc nous, pour l'exposition, on s'est dit que c'était intéressant de les recontacter en disant où en est Ina De Yard et est-ce qu'on pourrait pas ressusciter un petit peu ce projet. Le concert est déjà, je crois, sold out plus ou moins, enfin c'est une très grande réussite. Et quelqu'un qui me tenait beaucoup à cœur, Brigadier Jerry, qui est l'auteur du morceau Jamaica, Jamaica, qui m'a donné l'idée du titre de cette exposition.
Merci Sébastien Carayol et félicitations pour cette belle exposition.
Merci à vous.
Et si vous êtes loin de France, vous pouvez toujours écouter Radio Jamaica, la web radio de l'exposition. Et d'ailleurs, nous allons clore cette émission avec un extrait de cette programmation en continu. Radio Jamaica. Let them fall.
Brothers and sisters, you never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done, hurting so many people, and you have no mercy. Call your own. You're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall, let them fall, for what you have done, you have no mercy.
We are going to jump on sound. You cannot cross the border, 'cause we are clan body. Come!
Vous écoutez l'épopée des musiques noires branchées sur Radio Jamaïca, la web radio de l'exposition Jamaïca Jamaïca à la Philharmonie de Paris. C'est ainsi que nous allons nous quitter, mais nous reviendrons ici même pour interroger le pianiste jamaïcain Monty Alexander en concert le 23 avril. Autre rendez-vous à noter, les concerts de Kala Djula, une formation menée par Samba Diabaté et Vincent Zanetti. Ça se passera à Praia au Cap-Vert du 10 au 13 avril prochain. Et puisque nous sommes dans une exposition, je vous en recommande une autre qui débutera le 10 mai au Musée de l'Homme à Paris. Il s'agit d'Impressions mémorielles, le regard de 10 photographes sur le drame de l'esclavage. À terme, les organisateurs souhaitent faire voyager cette exposition à travers la planète. Pour cela, il faut des moyens. Un appel aux dons a donc été lancé sur une plateforme participative. Si vous voulez contribuer, rendez-vous sur le site helloasso.com. L'émission du jour était mise en onde conjointement par Marc Fichet, que je remercie, et Nathalie Laporte, que j'embrasse. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal. Musique du